Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de choses à discuter ensemble. En deuxième heure, je vais recevoir la visite de l'humoriste P.A. Méthode. Je sais pas si vous l'avez vu en spectacle, j'ai eu l'occasion de le voir fin janvier. Et on aura l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé pour lui dans sa vie au cours de la dernière année qui a été, c'est le moins qu'on puisse dire, assez mouvementée. Et ça inclut une opération à cœur ouvert. Bref, on aura également l'occasion de discuter de cinéma parce que même si on le sait depuis quelques années, le cinéma québécois a toujours de la misère à tirer son épingle du jeu. Parmi le top 10 des films que vous êtes allés voir le plus l'année dernière, ce sont 10 productions hollywoodiennes. C'est assez pathétique quand on voit ça, ce que ça veut dire que notre cinéma nous intéresse plus. On verra ça tout à l'heure, puis entre autres, je recevrai M. Guzzo des cinémas Guzzo là-dessus, qui a une opinion bien tranchée sur la question. Mais d'abord, je veux vraiment vous parler d'une histoire qui est un peu la nôtre, parce qu'on s'est mis à fouiller sur des histoires d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Il y a beaucoup de causes en ce moment dans l'actualité, vous en conviendrez. Et en lisant un peu toutes sortes d'histoires, je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup de vraies victimes qui étaient oubliées. Et ce qui a été pour moi un élément déclencheur qui fait que je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui, c'est que dernièrement, en début de la semaine, on a appris qu'un voleur qui a été en fait battu par un commerçant à qui il venait de dérober une chaîne en or, va être indemnisé comme une victime. Donc, vous avez bien compris, un voleur va dans un commerce, il attaque le commerçant, il essaye d'abord de lui voler une chaîne stéréo, mais il n'y arrive pas. Donc, il s'attaque physiquement au commerçant, il frappe et dans sa fuite, il part avec une chaîne en or d'une valeur de 3 000 $. Le commerçant se relève, part à courir après le gars et se dit, j'imagine qu'il a dû se dire, hey, c'est pas vrai qu'il va partir comme ça. Il a quand même appelé le 911, le commerçant, il faut bien le préciser. Et bref, il a fini par mettre la main au collet du voleur et l'a tabassé. Ce qui fait que c'est allé en cour parce que le voleur estime lui-même être une victime. Ça, c'est fabuleux, ça. Et croyez-le ou non, tu sais, tu peux penser être une victime puis ne pas avoir d'indemnisation. Mais dans ce cas-ci, il y a une juge qui a trouvé que le voleur avait raison puis que c'était une victime. Moi, sincèrement, je la comprends pas, celle-là. Vous savez que, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Vous savez qu'il y a un programme au Québec qui s'appelle LIVAC. LIVAC, c'est un programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels qui relève du ministère de la Justice. Un programme LIVAC qui est critiqué depuis des années. D'ailleurs, il y a 2 ans, la productrice de Citoyen avait publié un rapport dévastateur sur LIVAC en dénonçant les lacunes dans la prise en charge de ces victimes. Quelqu'un qui connaît bien le dossier, en fait, j'en ai 2 avec nous là, qui connaissent très, très bien ce dossier-là. Pierre-Hugues Boisvenu, d'abord, sénateur conservateur, qui, vous en souviendrez, à la suite de l'assassinat de sa fille en 2002 par un criminel récidiviste, avait décidé de justement se battre pour faire reconnaître le droit des familles dont un proche a été assassiné ou était disparu. Ça a donné l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Il est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Boisvenu.
Bonne journée, Madame Maréchal. Bonne journée à tous ceux qui nous écoutent aussi ce matin.
Marc Bellemare, vous le connaissez aussi, ex-ministre de la Justice du gouvernement du Québec, qui est avocat et qui, depuis qu'il a quitté la politique, continue d'en faire un peu puisqu'il se bat pour les victimes. Merci, Maître Bellemare, d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
J'ai envie de commencer avec vous, parce que j'aimerais que vous m'expliquiez, Maître Bellemare, est-ce que vous comprenez cette histoire du voleur qui a fini par être indemnisé, considéré comme une victime?
Oui, mais c'est une décision du tribunal administratif du Québec qui à mon avis, mérite d'être contestée. Et ce que j'en ai su par la suite, c'est que le procureur général du Québec avait l'intention de demander à la Cour supérieure de casser cette décision-là, ce qui serait une bonne chose, à mon avis, parce que moi, je pense qu'il faut que le régime s'adresse aux vraies victimes. Je vois quotidiennement des gens dans mon bureau qui viennent pour déplorer le fait qu'on leur paye pas des frais de psychologue, des frais de déplacement, des frais de repas. Souvent, c'est pas des gros montants. Mais pour des gens qui vivent pauvrement avec des prestations d'IVAC ou d'aide sociale, c'est quand même souvent des montants importants. Et ils sont obligés de se battre pendant des années pour se faire payer des frais assez modestes. Et là, voici que le tribunal administratif accorde le droit aux indemnités à une personne qui a volé et qui s'est fait tabasser. Je trouve que, franchement, à partir du moment où tu voles, c'est sûr que ça ne veut pas dire que tu vas te faire taper dessus parce que tu as volé, mais c'est quand même une réaction prévisible et c'est directement en lien avec un acte criminel, un autre acte criminel qui s'appelle un vol. Hein, c'est pas permis au Canada de voler. Alors, je pense que la personne doit s'en prendre elle-même, mais je ne vois pas pourquoi les fonds publics devraient lui venir en aide.
Voilà, c'est bon de rappeler que c'est de l'argent public, là, c'est l'argent des taxes, des contribuables.
Oui, mais l'IVAC, contrairement à la CNESST, par exemple, pour les accidentés du travail, c'est un fonds qui est financé par les employeurs au Québec.
Ouais.
Il y a une centaine de milliers d'employeurs qui cotisent chaque année. C'est une espèce de mutuelle d'employeurs, la CNESST. La SAAC, bien, c'est une mutuelle d'automobilistes hein, qui paye à travers leur permis de conduire des sommes qui vont permettre l'indemnisation des victimes. Mais IVAC, ça sort directement de la poche du gouvernement.
Donc, des citoyens.
Voilà, tout à fait, les pertes de taxes.
Oui. Vous dites justement, M. Bellemare, que selon la juge administrative, la juge de l'IVAC, là, ils ont considéré que le fait que le voleur a été battu par le commerçant qui essayait de voler, c'est un événement complètement à part du vol qu'il avait essayé de commettre. Comment ça peut être considéré deux événements différents? Ce qu'elle a jugé, c'était que, dans le fond, le vol, c'est une chose, puis l'attaque que le voleur a subie du commerçant, c'est une autre chose, puis les deux ont rien à voir. Je veux dire, en lisant la décision, je me suis dit, mais voyons, ça se peut pas.
Oui, mais c'est parce que le tribunal administratif est un tribunal dont les décisions peuvent être revisées par la Cour supérieure si on peut établir que la décision n'est pas raisonnable. Et je pense que c'est le cas ici et j'espère qu'elle va être attaquée. Certainement pas par le bénéficiaire parce que lui est mort de rire, mais par le procureur général qui est quand même parti au dossier et qui représente les intérêts d'IVAC devant le tribunal administratif. Mais c'est sûr que la loi de l'IVAC prévoit déjà que si vous avez commis une faute lourde à l'occasion d'un acte criminel. Par exemple, si vous, je sais pas moi, vous êtes un trafiquant de drogue notoire, vous avez un dossier criminel de 3 pieds de long, et vous faites une passe de drogue, et pendant la passe de drogue, il y a quelqu'un qui se fâche et qui vous tire une balle. Alors, à ce moment-là, vous réclamez à IVAC, mais on va vous refuser parce qu'on va dire que vous avez contribué à votre malheur par votre faute lourde en fréquentant des gens peu recommandables, des gens du milieu criminel. Alors, c'est bien connu et il y a 40% des cas de refus à IVAC qui sont en lien avec le fait que la supposée victime aurait contribué à son malheur en prenant des risques.
40%?
Oui, 40%. C'est le premier motif de refus à IVAC, c'est la faute lourde. C'est-à-dire qu'on reproche à la personne d'avoir participé au risque, d'avoir contribué à son malheur. Elle a été victime, oui, d'un acte criminel, mais elle a couru un peu après. Alors ça, c'est la norme.
Mais ça veut dire qu'il y en a une méchante gang qui s'essaye?
Il y en a une méchante gang qui s'essaye, c'est vrai. Puis des fois, ils refusent sans raison particulière. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas parce que vous avez un dossier criminel que vous pouvez pas être admissible à IVAC automatiquement. Si vous avez, par exemple, un dossier d'alcool au volant, puis que vous êtes victime d'une invasion de domicile, bien évidemment qu'il n'y a aucun lien. Là, puis l'invasion de domicile, c'est un crime. Et vous pouvez avoir été blessé et traumatisé à l'occasion de l'acte criminel. Et il n'y a aucun lien à ce moment-là avec les infractions criminelles qu'on a pu vous reprocher par le passé.
Ouais. Merci.
Dans ce cas-ci,
oui.
Là, c'est très différent. Là. C'est le gars, il s'en va voler. Là. Il effectivement, il y a un vol. Il y a une preuve incontestable de vol. Et il se fait courir après par l'individu qui s'est fait voler, qui lui donne une volée, une raclée.
Mais et le gars, il a été agressé. Il rentre dans son commerce, puis c'est un commerce de prêt sur gage. Fait que là, on pourrait dire, ouais, mais tu sais, mais le gars, c'est légal, un commerce de prêt sur gage, là. C'est légal. Il rentre dans le commerce, il essaye de voler quelque chose, il n'y arrive pas, il prend quand même une chaîne en or au lieu d'un système de son. Mais avant ça, il a frappé le commerçant, là.
Oui, oui. Alors tu sais, à mon avis, c'est une faute lourde. Puis je vois pas comment on peut faire une dissociation nette et franche entre dissocier les deux événements. C'est certain qu'il y a un lien. Et je pense que cette décision-là devrait être attaquée. Mais je dois vous dire que moi, là, quand j'entends des histoires comme ça, ça va coûter des milliers de dollars au gouvernement, à IVAC. Et c'est le fonds d'indemnisation qui, en principe, est consacré à des victimes.
Voilà.
Et je vois là des victimes d'agressions sexuelles, des victimes de viol, des victimes d'évasion de domicile, des voies de fait, des gens qui se font tabasser et qui réclament et qui ont tellement de difficultés parce que IVAC, c'est tellement compliqué. Ils mettent des bâtons dans les roues à tout le monde. Ils cherchent à ne pas payer les vraies victimes. En même temps, t'en as un là qui va empocher des sommes mirobolantes alors qu'il devrait pas être admissible.
Et c'est là où je vais vous entendre, Pierre-Hugues Boisvenu, là-dessus. Là, je voulais vraiment que Maître Bellemare nous explique bien le contexte. Quelle est votre réaction par rapport à cette cause? Parce que c'est une vraie juge là qui a décidé, là, puis c'est une vraie décision. Je comprends qu'on peut toujours les remettre en question en les contestant puis en allant en plus haute instance, mais l'idée d'un jugement, c'est qu'il soit la première fois le plus juste possible. Dans ce cas-ci, votre réaction, Pierre-Hugues Boisvenu?
Ben, je vous rapporte à ce que vous disiez d'entrée de jeu, le fameux rapport de Madame Saint-Germain, qui parlait de l'IVAC comme un organisme d'exclusion sans empathie et qui cultive la culture du délai et du rejet. C'est un organisme qui, moi, depuis 15 ans, je milite pour sa fermeture complète et de réintégrer cette organisation-là dans les CAVAC qui sont dans les régions. Vous savez, il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. D'abord, l'IVAC relève de deux ministres, le personnel du ministère du Travail de la CSST et l'argent relève du ministère de la Justice. Donc, c'est comme s'il y a deux boss et c'est qui bosse qui. Faut comprendre aussi que l'argent vient, oui, en partie du Conseil du Trésor, mais aussi en partie de la suramende. Quand vous avez une étiquette de vitesse, vous avez 15% de suramende qui va à ce fond-là. C'est quand même 5 millions par année. Et Marc le disait tantôt, on est plus facile ou plus rapide à aider des criminels qu'à aider des victimes. Même ça me rappelle le cas d'une famille de la Beauce dont le garçon de 16 ans ou 14 ans avait été tué d'un petit deal de drogue. Et les parents qui n'ont rien à faire dans ce crime-là ont été exclus de toute aide, soit le service funéraire ou l'aide psychothérapeutique, et parce que le garçon était dans un deal de drogue. Donc, c'est une organisation qui est complètement dépassée sur le plan d'aide aux victimes. Et il faut non plus la réformer, parce que, à mon avis, j'y crois plus, à la réforme de l'IVAC, mais il faut tout simplement fermer ça et partir sur un autre nom.
Merci beaucoup tous les deux. Vous restez là, bien sûr, Maître Marc Bellemare, Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je vais parler à la mère d'une jeune femme qui a été assassinée en 2015. Et cette mère se bat depuis presque bientôt 4 ans maintenant pour se faire reconnaître comme une proche de victime. Et croyez-le ou non, cette mère-là n'a pas été reconnue par l'IVAC comme une proche de la victime. Si comme mère, t'es pas reconnue comme proche de ta fille, je sais pas qui va l'être. On va revenir, bien sûr, avec vos commentaires. Comment vous voyez ça? Un voleur qui vole, battu par sa victime, parce que la victime, c'est en fait le commerçant auquel il s'est attaqué. Il demande d'être indemnisé et l'IVAC lui concède « Oui, monsieur, vous avez volé, mais ça n'a rien à voir avec le fait. Pauvre monsieur, pauvre de vous. Hein? Vous avez même pas été capable de vous défendre. Le commerçant que vous avez essayé de voler, il est parti après vous, il vous a donné une raclée. On va vous aider un petit peu financièrement avec l'argent du public. » là. Hein? 514-790-9850, vous me permettrez d'être un peu fâché par ce genre de situation-là et légèrement cynique devant notre système. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. On s'interroge ce matin sur les politiques d'indemnisation de cet organisme rattaché au gouvernement du Québec et donc payé par vos taxes qui s'appelle l'IVAC et qui vise finalement à indemniser des victimes d'actes criminels. Il y a des centaines de victimes au Québec et de proches de victimes qui doivent se battre tous les jours pour se faire reconnaître comme vraie victime. Et là, je vous parle d'un cas d'un gars qui a été, lui, qui est un voleur. Il a essayé de s'attaquer à un commerçant. Il est parti avec une chaîne en or de son commerce. Il l'a volé. Et quand le commerçant est parti après lui puis l'a tabassé, ben, la juge de l'IVAC a considéré le voleur comme la victime dans cette affaire. Évidemment, des victimes, c'est pas ça qui manque au Québec, des proches de victimes non plus. C'est le cas d'Isabelle Tremblay. Madame Tremblay est la mère d'Audrey Carey, qui a été assassinée en Californie en 2015. Elle a été assassinée par 3 jeunes sans-abri, apparemment, qui voulaient lui dérober son argent. Madame Tremblay est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, Madame Maréchal.
Je pense que vous arrivez pas, vous, à être indemnisée par l'IVAC parce qu'on considère que vous n'êtes pas une proche de victime, vous n'êtes pas une victime dans cette affaire, Isabelle.
Tout à fait. Puis, pour commencer, vous savez que le premier critère d'admissibilité chez IVAC, c'est qu'il faut que la tragédie ait eu lieu au Québec. Alors, moi, j'ai 2 contraintes dans ce cas-ci. C'est que ma fille est décédée à San Francisco et que je ne suis pas considérée comme une proche de la victime.
Vous avez fait, bien sûr, une demande pour être reconnue comme telle.
Oui.
Est-ce que ça a été compliqué, vos communications avec l'IVAC?
Ben, c'est-à-dire que j'ai fait... Audrey est décédée en octobre 2015 et j'ai fait ma première demande chez IVAC en septembre 2016. Donc, vous savez, au début, toutes les démarches qu'on a à faire, bon, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, je savais pertinemment que je ne serais pas acceptée chez IVAC, mais je voulais quand même faire ma demande justement pour avoir l'occasion de contester.
Oui.
Alors là, j'en suis rendue à ma deuxième contestation par écrit. Maintenant, on attend une audience au tribunal administratif pour qu'une entente vienne conclure que c'est vraiment une situation discriminatoire.
Mmh. Et donc, on vous a dit plusieurs fois, madame, vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes même pas une proche de victime.
Exactement. Oui. C'est tout à fait aberrant. On comprend pas, comme M. Boisvenu disait tantôt, que dans notre système, malheureusement, les criminels ont souvent plus, ont plus de services que les victimes. Donc, n'ont pas à lever le petit doigt, justement, pour avoir accès à une panoplie de services.
Mmh.
Alors que nous, on est déjà démolis totalement. Il faut sans cesse faire des démarches, se battre pour obtenir du soutien.
Dans votre cas, vous le dites, vous êtes doublement considérée comme étant pas une personne indemnisée parce que, bon, votre fille a été assassinée à l'extérieur du Québec. Et oui, c'est bien de le rappeler, ce qui est très bizarre, c'est que si on meurt d'un accident de voiture à l'extérieur du Québec, bien là, la SAAC va contribuer, on va être indemnisé. Mais on le sera pas si on est victime d'actes criminels.
Tout à fait, oui. Si ma fille était décédée dans un accident de voiture à l'extérieur, on aurait été indemnisé, on aurait été soutenu.
Là-dessus, j'aimerais entendre Maître Marc Bellemare, parce que ce sont des causes pour lesquelles vous êtes monté souvent aux barricades, Maître Bellemare.
Oui, mais il y a beaucoup d'incohérences dans nos régimes publics. Hein. C'est pas normal qu'une personne soit traitée distinctement selon qu'elle soit victime d'un acte criminel, d'un accident de travail ou d'un accident de la route. J'ai toujours été en faveur d'une harmonisation des régimes. D'abord parce que ce serait beaucoup plus simple si c'était harmonisé, parce que là, c'est pire que la loi de l'impôt. Là, quand tu as un accident, tu essaies de te démêler là-dedans. Est-ce que j'ai droit à quelque chose? Comment ça se fait que l'autre, mon voisin, lui, qui est sur la CSST, a droit à moins, la SAC a droit à plus dans certains cas, l'indemnité de décès qui varie, les parents, les personnes à charge, le lieu de l'accident, vous avez raison de le soulever. La SAC protège pour les accidents d'auto. Vous êtes frappé comme piéton à Amsterdam ou à Rio, vous allez être indemnisé par la Société de l'assurance automobile parce que c'est un accident de la route. Pour peu que vous soyez un Québécois à l'étranger, même si vous êtes victime d'un accident de la route à l'étranger, vous allez être payé. Si vous êtes dans le cadre de vos fonctions pour un employeur québécois, mais vous travaillez à Edmonton ou en Ontario ou aux États-Unis, vous allez être indemnisé aussi, alors qu'un acte criminel, si l'acte criminel n'est pas survenu au Québec, vous n'êtes pas considéré comme une victime, vous n'avez aucun droit. Alors, mais le principal problème pour les proches des victimes, là, c'est les gens qui sont impliqués dans l'accident, en ce sens qu'ils sont touchés par la scène de l'accident, puis qui ne sont pas indemnisés. C'est-à-dire que IVAC continue d'appliquer une définition très rapetissée, très serrée de victime, en exigeant que la personne soit celle qui a reçu le coup de couteau ou la balle de fusil. Alors que la définition de victime est beaucoup plus large que ça. Toute personne qui a subi un choc mental dans le contexte, à l'occasion d'un accident, d'un acte criminel, peut être indemnisée. Puis il y a des problèmes de loi. C'est certain que c'est une loi de 1972 qui mériterait d'être rafraîchie.
Ben oui.
Elle n'a presque jamais été touchée depuis 1972, mais il y a des problèmes de loi, oui, mais il y a des problèmes d'administration de la loi aussi. Ce que la protectrice du citoyen a soulevé en 2016, c'est des problèmes de loi, mais aussi des problèmes de gestion, des appels non retournés, des dossiers non transmis, du courrier non répondu, du mépris à l'autre bout de la ligne quand tu appelles à IVAC. Ça, là, c'est pas une question de loi, c'est une question d'attitude aussi.
Avez-vous vécu ça, Isabelle Tremblay, tout ce que vient de décrire Maître Bellemare par rapport à votre dossier pour faire valoir votre situation auprès de l'IVAC?
Ben oui, exactement. Puis je fais aussi partie de l'AFPAD, de l'Association des familles personnes assassinées ou disparues. Je fais partie du conseil d'administration également parce que je trouvais que ça faisait du sens là avec mes démarches en parallèle chez IVAC. Mais c'est tout à fait ça la réflexion de Maître Bellemare. Les règlements ont été adoptés il y a très longtemps. Alors on s'entend qu'en 72, il y avait moins de chances là qu'on décède à l'extérieur du Québec. Alors oui, ça devrait devrait vraiment, il devrait y avoir une réforme chez IVAC. Audrey est québécoise. Nous sommes québécois, ses parents. Alors, Audrey a été absente du Québec à peine 2 semaines. Alors, je trouve ça tout à fait...
Et pour
c'est
vous,
tout à fait inadmissible.
Quand on dit, évidemment, des gens peuvent demander, oui, mais dans le fond, pourquoi on devrait compenser? Qu'est-ce qu'on devrait vous rembourser? Est-ce que, vous demandez quoi, Isabelle Tremblay, depuis toutes ces années?
Ben, pour commencer, quand on est admissible chez IVAC, on a des séances de psychothérapie qui sont offertes par IVAC. Je n'ai pas eu accès à ce service-là minimal. Alors, oui, il faudrait bien commencer par avoir des services spécialisés. J'ai commencé une thérapie il n'y a pas très longtemps dans un institut spécialisé en deuil traumatique. Alors, j'ai un soutien de la part de AFPAD pour quelques séances, mais on s'entend qu'à 100 $ le 50 minutes, je pourrais pas continuer très longtemps. Donc, entre autres, c'est ça, avoir des services spécialisés vraiment en deuil traumatique, c'est vraiment important et aussi souvent et aussi longtemps qu'on en aura besoin parce que c'est tellement une situation de montagne russe, c'est une tragédie comme ça.
Il y a une violence incroyable. Il y a une violence épouvantable.
Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, comme Maître Bellemare le disait également, même si on n'a pas été témoin sur les lieux, c'est la même onde de choc que d'apprendre que son enfant est assassiné. C'est une souffrance, une douleur sans mots.
Donc, il faut des années pour s'en remettre, sans doute, si on s'en remet, Isabelle.
Je dirais que ça prend le reste de la vie, de notre vie, à apprendre à vivre avec ça, avec cette souffrance-là.
Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ça, de ce passage extrêmement douloureux que vous vivez. Malheureusement, l'IVAC n'a pas beaucoup d'écoute de cette douleur. Merci, Isabelle Tremblay. Merci beaucoup, Maître Bellemare, d'avoir pris le temps de nous parler également. On va suivre ça pour vous. On a décidé aussi de le faire lundi également. On parle au protecteur du citoyen, on parle à pas mal de monde. On va essayer de brasser ça un peu pour faire en sorte que, comme le disait à l'époque, c'est drôle parce qu'à l'époque, le porte-parole en matière de justice pour la CAQ, c'est Simon Jolin Barrette. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Hein? Aujourd'hui, ministre de l'Immigration. Mais à l'époque, il avait demandé à la ministre de la Justice, c'était Stéphanie Vallée, de moderniser l'IVAC. Il disait ça n'a pas de bon sens. Il demandait même une commission parlementaire où là, on viderait, tout le monde pourrait vider son sac, puis on pourrait repartir peut-être sous un autre nom, comme le suggère mon invité Pierre-Hugues Boisvenu. Nous allons nous arrêter ici. Merci, Maître Bellemare. Et tout de suite, au retour de pause, bien sûr, vous pourrez nous donner votre opinion là-dessus. Quand vous écoutez ça, là, c'est parti de l'histoire du voleur. Il va voler dans un magasin, part avec... il frappe le commerçant. Le commerçant se relève et part après le voleur et tabasse le voleur. Apparemment qu'il l'a un peu amoché puis qu'il a perdu des dents, ce qui fait que l'IVAC va lui payer une nouvelle dentition et probablement des primes à vie, puisque le voleur est celui qui a été considéré comme la victime. Tu sais, dans la catégorie « c'est le monde à l'envers », effectivement, bienvenue au Québec. 514-790-9850, sans frais le 1-866-790-9850. Un voleur battu par le commerçant qui l'a attaqué devrait-il être indemnisé par l'IVAC? L'IVAC, qui est cet organisme donc d'indemnisation des victimes d'actes criminels au Québec, un organisme plus que jamais critiqué. On a Marie qui est avec nous, qui nous appelle comme auditrice. Elle a été victime d'un acte criminel. De ce que je comprends, Marie, l'IVAC a refusé de vous indemniser, c'est bien ça?
Ils n'ont pas refusé, mais ils ont beaucoup profité du temps où j'étais psychologiquement pas en état vraiment de me défendre. Et suite à l'acte criminel, j'ai été un bon bout sans travailler, sans être capable. Puis, c'est ça, là, je suis travailleuse autonome. Ça fait que l'IVAC m'ont offert 12 000, puis j'avais pas le choix, là. C'était « tu signes là, ou bien t'as rien, puis là, ça va en cours. » Alors, moi, j'ai été pris de panique. J'étais pas
Vous étiez traumatisée, là. Dites-nous rapidement qu'est-ce qui s'était passé. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
En tout cas, j'ai été droguée. Moi, j'ai été droguée à mon insu, mais je suis partie tout de suite après. Ça fait que fait que j'ai pas été violée suite à ça, rien de ça. Mais quand les faits, j'avais un gros 2 heures de route pour retourner chez moi. Mm-hmm. Ça fait que quand les faits est apparu, que je suis sur la route, c'est la nuit, je descends la montagne, je suis dans le bois. La panique qui m'a pris, tu sais, que je pouvais pas trouver un auto de police, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, là. Mm-hmm. Je pouvais même plus lire mes panneaux de signalisation. Mm-hmm. Fait que, suite à ça, dans l'année qui a suivi, je suis tombée en choc post-traumatique. Mm-hmm. J'ai développé, suite à ça, des troubles anxieux sévères pour lesquels je vais être médicamentée le reste de ma vie. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que c'est pas très généreux pour couvrir le reste d'une vie handicapée, si on veut.
Merci, Marie, de votre témoignage. Serge a été battu chez lui. Je comprends que c'est l'impression que c'est une erreur sur la personne, votre histoire, Serge, c'est ça?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui. Oui, moi, j'ai été attaqué chez moi le 1er octobre 2015. Ça a été... la police a dit qu'ils ont fait une erreur. Ils cherchaient mon voisin, en fait. Puis, c'est ça, je me suis ramassé aux soins intensifs. Puis, wow. J'ai une compagnie à ma sonnerie, j'ai des employés, tout ça. Puis, l'IVAC, ça a pris 9 mois avant qu'il m'accepte. Une chance que ma femme travaille et qu'elle ait un bon travail.
9 mois.
Ça aurait pu être dur, oui, c'est ça.
Fait que donc, on vous a indemnisé, parce que dans ce cas-ci, c'est assez clair que vous êtes une victime d'actes criminels. Ça n'a pas dû être très compliqué à reconnaître ça.
Oui, ils m'ont indemnisé, mais ils ont plein de choses qu'ils n'ont pas payées. Mon salaire, ils m'ont donné une fraction de ce que je faisais. Je veux dire, ça en est presque ridicule, en fait, là.
Puis quand on parle de rente de combien? On parle de combien quand on est indemnisé par l'IVAC dans une cause comme celle-là, Serge, quand il arrive ce genre de... quand on est attaqué chez soi comme ça, qu'est-ce que l'IVAC rembourse?
Ben moi, ils m'ont j'ai pas été capable de travailler pendant 3 mois. Mm-hmm. J'avais même pas le droit de conduire mon camion pendant un bout de temps. Puis ma femme a fallu qu'elle continue à faire travailler mes employés, ma compagnie, tout ça, mais ils m'ont donné comme 4 000 $ de salaire. Ouais. 3 mois, ce qui est complètement ridicule. Puis, tu sais, j'ai fait de la physio pour mon visage, ma mâchoire, mon bras. Puis, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas payées.
Ouais, c'est
un petit peu minable, là, considérant ce qu'on paye. Puis, tu sais, moi, je fais affaire avec la CSST pour mes employés. Je sais combien ça coûte. Puis, quand c'est le temps de collecter, ils collectent. Mais quand c'est le temps de payer, faut-tu te battre.
Oui. Ouais. Merci beaucoup, Serge, de votre témoignage. Ouais. Robert est avec nous. Racontez-nous votre histoire, Robert.
Ben moi, alors, j'ai été agressé par 4 personnes chez moi. Samedi soir, 29h. Ils m'ont pratiquement tué. J'ai été 11 jours en trauma, sacré-cœur, poignardé 12 fois. Là, 5 plaques de métal dans le visage. J'entends plus de l'oreille droite. Je boite de la jambe gauche. J'ai rien eu. Ça fait 2 ans, je ne peux plus travailler parce que j'étais DJ. J'ai vendu ma maison parce que j'avais besoin d'argent. Ça fait 2 ans que je n'ai pas travaillé. J'aimerais travailler, mais...
Mais pourquoi l'IVAC...
Dans mon garage.
Comment ils peuvent justifier ne pas vous indemniser dans un cas comme ça où vous êtes clairement une victime d'un acte criminel?
J'ai fait de la demande 1 mois après avoir été pratiquement tué avec CAVAC, en complicité avec CAVAC, et l'ont envoyé à IVAC. IVAC, ils m'ont dit, il y a environ 2 mois, qu'ils vont me donner une première décision d'environ 2 ans.
Dans 2 ans?
2 ans.
Oh, mon Dieu.
Ça va faire 4 ans que j'ai une première décision qui, d'après moi, va être négative, parce que j'ai maître... l'avocat qui fait tantôt, là, Mme Kwong, la femme à M. Bellemare,
ouais.
elle m'expliquait que c'est normal au tout début qu'ils vont vous dire non, qu'ils vont vous dire non, qu'ils vont vous dire non. Fait que mon premier non, je devrais l'avoir d'environ 2 ans. Ce qui va faire 4 ans que je travaille pas, que je fais pas rien. Là, je vis dans mon garage, ça fait 3 mois. Je pisse dans un seau. Je me lave avec un autre seau. Je dirais, ça me dérange pas, là. Mais c'est parce que je suis rendu là. Mais c'est correct, là.
Mais voyons donc, mais je peux pas croire qu'on vous laisse comme ça. Est-ce que vous avez personne qui peut vous aider?
Comment vous dites?
Il y a personne qui peut vous aider, Robert? Il n'y a pas de service
ben
autre?
Là, j'étais très autonome, moi, auparavant. J'ai essayé de retourner très autonome. Je peux pas, là. Je boite de la jambe gauche. J'entends plus de l'oreille droite. J'ai de la misère. J'aimerais ça me replacer, mais je sais pas dans quoi. J'ai peur aussi. J'ai une grosse peur depuis ce temps-là. Je suis déçu aussi. J'ai même plus le goût de faire partie de ce système-là. J'ai même plus le goût de faire partie de cette ville-là, de cette province-là, de ce pays-là. On dirait, j'ai le goût de me suicider, mais j'ai le goût de crisser mon camp dans le bois puis plus rien savoir de l'humain. C'est là que je suis rendu. J'ai vendu ma maison, j'ai un peu d'argent pour te faire quelques années. Mais après ça, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Puis ce que j'ai vendu, c'est ma pension que j'ai vendue. Je ne sais pas ce que je vais avoir comme pension dans le futur.
Robert, votre témoignage est assez incroyable. Merci beaucoup d'abord de témoigner de ce que vous vivez. Pierre-Hugues Boisvenu est avec nous. Il est sénateur. Je vous rappelle qu'il s'est battu justement pour... Et il continue de le faire. Il milite vraiment pour une humanisation du système de l'IVAC avec les derniers témoignages. Les 3 témoignages de nos auditeurs sont assez probants, surtout celui de Robert, là, celui de Serge également. Des gens attaqués chez eux. Comment l'IVAC peut essayer de gagner du temps? Là, on comprend que dans le cas de Robert, on lui a dit c'est normal. Au début, l'IVAC dit toujours non, ou à peu près. Pierre-Hugues Boisvenu, là-dessus?
Bien, vous savez, Mme Maréchal, tout le monde, tous les spécialistes le disent aujourd'hui, le plus rapidement possible, vous intervenez auprès d'une victime d'un criminel qui a vécu un traumatisme sévère. Excusez-moi. Plus rapidement vous intervenez, plus rapidement cette personne-là va retourner sur le marché du travail, va redevenir un citoyen ou une citoyenne productive et qui va bien gérer sa peine, sa douleur. Quand vous laissez ces gens-là dans ce traumatisme-là longtemps, bien, l'handicap, il va être à vie. Alors que le criminel, et ici je ne veux pas faire en sorte que les criminels leur enlevent des droits pendant nos victimes, mais lorsque le criminel rentre dans un système pénitentiaire, surtout au fédéral, immédiatement, il y a une batterie de spécialistes qui vont les prendre en charge pour nous assurer qu'ils ne récidivent pas. Donc, notre problème au niveau de l'IVAC, c'est la lenteur du système et c'est surtout la culture du rejet. C'est Marc Bellemare qui le disait tantôt. On va rejeter presque la moitié des demandes, sachant que les victimes n'ont pas assez d'énergie pour aller se battre dans des systèmes complexes. On n'est pas habitué à aller en cours, aller à la commission administrative. Donc, les victimes font comme beaucoup de victimes, ils vont laisser tomber. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, c'est pas normal qu'au Canada, une victime, qu'elle soit victime à Terre-Neuve, qu'elle soit victime en Ontario-Québec, elle n'ait pas des traitements égaux. Et c'est pas normal qu'une victime qui va se prendre, une famille qui va se promener à Toronto, qu'elle est agressée, qu'elle revienne au Québec, puis Québec dit non, on ne peut pas vous aider parce que le crime a eu lieu en Ontario. C'est une incompréhension de la part des victimes et qui font en sorte que la moitié des victimes vont abandonner en cours de route.
Et ça, Pierre-Hugues Boisvenu, je vais vous dire, là, pour être passé par là, quand vous êtes victime d'un acte criminel, il faut être au courant des lois, hein, parce que des services. Moi, j'ai vécu une agression, là, une invasion de domicile quand j'étais plus jeune. J'habitais chez mes parents. Là. Puis on nous a jamais parlé de l'IVAC. Là.
Mais non, puis il faut
jamais. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, personne ne nous a jamais dit, peut-être que vous avez un choc post-traumatique, madame. Là, tu sais, ou, mes parents n'ont jamais eu de service. Ma sœur était petite. On n'a jamais été... Et les gens n'ont rien eu, là, les gens qu'on a...
Il y a des améliorations qui sont faites, mais ils sont mineurs. Je pense à quoi Isabelle Tremblay, que je connais très bien. Quand votre fille est assassinée, puis là, ça fait unique, hein, c'est encore pire.
Oh, elle
revient, elle doit soigner sa peine, sa douleur. Auparavant, si elle attendait plus qu'une année avant de faire une demande, elle était exclue.
Ouais.
Donc, on mettait des espèces de barrières artificielles, bureaucratiques, sans prendre en considération le cheminement de la victime.
La peine.
Et c'est ça, je pense, le plus grand problème à l'IVAC, c'est le manque de sympathie envers la victime. On va accuser un criminel devant le tribunal et il sera condamné hors de tout doute, mais il y a le doute raisonnable. Pourquoi on n'a pas ce doute raisonnable chez une victime qui demande de l'aide.
On va s'arrêter ici, on va conclure. Et bien sûr, il y a encore quelques minutes pour donner le temps à nos auditeurs d'intervenir. Si vous avez d'autres histoires comme ça, là, vous avez entendu les témoignages de Marie, de Serge, de Robert. Et pendant ce temps-là, ben, il y a un voleur qui va être dédommagé, indemnisé par l'IVAC, alors que c'est lui qui a attaqué un commerçant. Quand même assez fort, ça. 514-790-9850 pour nous joindre. Il y a Robert qui nous appelle, dont la conjointe a été tuée. C'est bien ça, Robert? Et...
Oui, oui. Elle a été tuée par son garçon, la grand-mère aussi, le 3 décembre 1997. Oui. Et l'indemnité qu'elle a eue, ma fille, la plus jeune, c'est d'avoir des un rendez-vous avec un psychologue pour IVAC.
Oui.
Puis lui, en dedans, là, il en a tué un autre, là, puis il fait sa sentence, il a tout ce qu'il veut... Mais ceux qui ont été victimes, là, ils n'ont rien. Là. Ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas rien. Là.
Wow. Les enfants, vous dites, de votre conjointe qui est décédée aujourd'hui, n'ont rien eu, n'ont pas été indemnisés comme proches de la victime?
Pas en tout, pas en tout. La seule affaire qu'ils ont payé, c'est le salon mortuaire.
Et qu'est-ce qu'on donne comme justification pour ne pas indemniser les proches des victimes comme ça, dans ce cas-ci, ces enfants?
Je ne sais pas. Le pire là-dedans, c'est que la plus jeune, elle a quoi, 20 ans? Là, elle est rendue qu'elle fait une dépression, elle est sur l'aide sociale. Là, ils ont coupé son aide sociale pour dire qu'elle était indemnisée par IVAC.
Ah.
Mais elle n'a jamais rien eu par IVAC.
Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de ce dossier-là? Est-ce que vous représentez?
Non.
Wow. Pierre-Hugues Boisvenu, quand on entend le témoignage de Robert, merci Robert, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Parce que visiblement, dans ce cas-ci, Robert, il est comme laissé un peu à lui-même, les enfants aussi, ils semblent pas être au courant de ce qui peut être fait dans leur cas aussi. L'IVAC dit rien, donne rien. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens? Là? Bon, évidemment, il y a des services d'un avocat, mais ils sont souvent coûteux. Les gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont sur l'aide sociale, peuvent-ils se tourner vers l'aide juridique dans des cas comme ça?
Première des choses, si c'est un meurtre, comme c'est le cas de monsieur, là,
ouais.
Qui contacte l'Association des familles de personnes assassinées et disparues, cette association-là est un très grand aide pour faire cheminer ces gens-là dans le système de justice. Effectivement, ils peuvent vérifier si leur revenu en bas de, je pense, c'est 28 000 leur permettrait d'être admissible à l'aide juridique. Quoique l'aide juridique prend très peu de dossiers quand c'est vous qui contestez quelque chose. C'est ça qui est le problème avec l'aide juridique. Elle va vous soutenir. Si vous êtes criminel, vous commettez un crime, puis vous devez être défendu par l'État, là, l'aide juridique va vous être donnée. Mais si vous êtes une victime et vous êtes lésé par les services de l'État, l'aide juridique va dire, bien, payez votre avocat, monsieur. L'aide juridique ne paye pas pour vous défendre. Elle va payer pour défendre les criminels. C'est l'absurdité de notre système.
Moi, je pensais que l'aide juridique... était là pour aider toute personne qui n'avait pas moyen d'avoir un accès à la justice.
Oui, mais sauf que si vous revendiquez vos droits, un exemple au tribunal administratif, l'IVAC sert surtout si vous êtes victime d'un acte criminel, vous êtes là, elle va vous soutenir. Mais si vous voulez contester une décision de l'État, l'aide juridique ne vous défendra pas.
Puisque c'est l'État, un peu aussi, d'une certaine façon.
À mon avis, la première des choses, puis je lui donne le conseil, il doit nous écouter, qu'il contacte, s'il est de Montréal, il y a un bureau à Montréal, l'AFPAD, et ils ont un bureau à Québec, et ils vont d'aide d'une bonne aide.
Voilà. Robert, si vous nous écoutez toujours, c'est l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Je pense que Robert est toujours là. Vous êtes toujours là, Robert?
Oui, je suis toujours là, puis écoutez, son garçon, lui, bon, mais il est en prison, il a tous les services qu'il peut. Lui, il a 36 ans, il a poignardé sa mère, il a fait des attouchements à sa mère avant de la tuer, et en plus, il a tué sa grand-mère, il était dans la chambre qui faisait de l'Alzheimer.
Mon Dieu! Wow.
Et c'est arrivé le 3 décembre 1997. Ça a passé dans les nouvelles, ça a passé partout.
Ouais, ouais.
Mais nous, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a de la peine, puis c'est tout, là, c'est pas...
Ouais. Je
comprends. Dans ce cas-là, Mme Maréchal...
Oui, merci, Robert. Oui, Pierre-Hugues Boisvenu, on termine avec vous.
Comme Madame n'était pas le support financier de la famille, les gens ne peuvent pas recevoir un support financier. Les enfants, par contre, eux ont dû recevoir jusqu'à 18 ans...
Merci.
Ce qu'on appelle une aide aux études.
Merci, Pierre-Hugues Boisvenu. On doit se laisser, mais on va faire le suivi lundi, c'est sûr.